SHAJPI, Scientific Voices.
Je m'appelle Sylvie Recoux. Je suis chercheuse à l'Institut national français pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, INRAE. Et je travaille sur les matières organiques des sols, leur nature, leur rôle dans l'alimentation des plantes, notamment l'azote, mais aussi leurs impacts environnementaux, tels que les émissions de gaz à effet de serre, les pertes de nitrates et la contribution des sols à la séquestration du carbone et la régulation du climat. Mon principal domaine de recherche concerne les cycles biogéochimiques du carbone, de l'azote et du soufre dans les systèmes agricoles. Ces cycles biogéochimiques sont bien sûr impliqués dans les matières organiques. En particulier, ma spécialité est de travailler sur les facteurs de décomposition des matières organiques du sol, qui sont facteurs de décomposition pilotés par les activités microbiennes en relation avec les pratiques agricoles et aussi avec une sortie importante qui est le cycle de l'azote et la disponibilité de l'azote dans les sols pour les cultures. J'ai trois types d'activités autour de ce thème. Le premier, ce sont des expérimentations que j'ai réalisées ou que réalisent mes doctorants. Donc, ils sont des expérimentations combinant des approches de laboratoire, des expériences de terrain chez les agriculteurs ou dans des systèmes expérimentaux partagés. Et aussi la mobilisation de modèles sol-plante qui mobilisent finalement les connaissances sur les cycles biogéochimiques. Mon travail s'insère dans une équipe de recherche à Reims, à l'UEMR Phare. Cette équipe est spécialiste des biomasses végétales qu'on appelle les lignocelluloses et leurs usages par l'agriculture et l'industrie. Et la connaissance de ces biomasses lignocellulosiques et de leur transformation mobilise des connaissances en agronomie, en biologie, en biochimie végétale, mais aussi en microbiologie et enzymologie. Ma deuxième activité, un peu journalière, concerne comme chercheur senior des activités de coordination de projets qui sont assez nombreux. Et parmi les plus récents, je citerai un projet financé par l'appel à projets multipartenaires ERA-GAZ, qui s'appelle Résidu-GAZ, sur les émissions de gaz à effet de serre venant des résidus de culture, donc en lien direct avec ma thématique. Aussi, également la coordination d'un projet bilatéral franco-italien qui s'appelait CLIMSOC, financé par les appels à projets bilatéraux, dédié à simuler les impacts de la gestion des cultures sur les émissions de N2O et la séquestration du carbone dans les sols. Et puis, en 2013, la participation comme expert à l'expertise nationale française sur les options d'atténuation des gaz à effet de serre. La troisième activité que je veux souligner est que depuis 2017, j'ai repris un poste de rédacteur en chef de la revue internationale Agronomy for Sustainable Development, qui est classée deuxième au niveau international dans la discipline agronomie, après avoir été pendant plusieurs années éditeur associé de la revue Soil Research et de la revue Plant and Soil. Mes recherches contribuent à deux grands défis actuels qui sont liés entre eux. Le premier, c'est maintenir la production alimentaire nationale, européenne et mondiale grâce à des pratiques agricoles et une gestion des sols adaptée, tout en réduisant les intrants externes, en particulier la fertilisation avec des engrais de synthèse et l'utilisation de l'énergie. Et l'autre grand défi qui est lié à l'agriculture maintenant est de réduire l'impact environnemental de l'agriculture, tel que les émissions de gaz à effet de serre, le lessivage, qu'on appelle aussi lixiviation, des nutriments dans les systèmes agricoles. Et plus récemment, a été souligné le rôle possible des sols dans l'atténuation du climat, qui a été reconnu par le biais du stockage à long terme du carbone organique dans les sols, qu'on appelle aussi la séquestration du carbone, et qui a conduit à l'initiative française puis internationale dite du 4 pour 1000. Toutes ces questions relatives au changement climatique et au rôle de l'agriculture dans ce changement ont placé la recherche sur les cycles biogéochimiques et la matière organique, qui était une discipline assez ancienne et plutôt classique, au cœur des enjeux actuels. Mes recherches influencent directement l'évolution de l'agriculture. Donc, en premier lieu, les agriculteurs, à qui on demande, déjà au plan national et européen, par exemple, d'évoluer vers les pratiques d'agroécologie, c'est-à-dire, dans mon domaine, une agriculture économe en intrants et en énergie. Donc, c'est le premier impact sur la vie de cette activité économique, bien sûr, très importante pour notre pays et pour l'alimentation en général. Cette activité de recherche, elle impacte aussi les consommateurs que nous sommes en tant que citoyens, puisque la société est déjà demandeur d'une nourriture saine, mais aussi progressivement neutre en carbone. En quelques années, ce sujet est devenu très important. Et donc, finalement, contribuer à mettre au point des techniques et des pratiques culturales et des systèmes de culture qu'on appelle bas carbone ou voire neutre en carbone va être demandé. Et c'est tous les enjeux, notamment des réflexions et même de la COP 26, d'aller vers cette neutralité carbone liée dans mon domaine à l'agriculture. Enfin, ces recherches, elle contribue à donner des références de l'expertise aux politiques publiques, qu'elles soient nationales, européennes ou internationales. Donc, pour exemple, nationales, c'est les ministères de l'agriculture et de l'environnement qui demandent aux chercheurs des données et des références pour améliorer la mise en œuvre de la directive nitrate 5, le nitrate continuant finalement à être un problème sur la qualité de l'eau. Au niveau européen, avec la politique agricole commune et ce qu'on appelle la stratégie de la ferme à la fourchette, qui va demander finalement aux agriculteurs de modifier leurs pratiques culturales. Et au niveau international, c'est le GIEC qui utilise des données de la littérature scientifique pour contribuer à la quantification des émissions de gaz à effet de serre, qu'ils soient au niveau national, européen ou international. Je souhaite souligner nos réalisations dans le cadre du projet CNMIP soutenu par l'Alliance et par FACE GPI, parce que ça a été un projet très important qui a reçu le soutien de l'Alliance mondiale de recherche sur les gaz à effet de serre, en France le soutien de l'ADEME, et le projet CNMIP a participé à une étude scientifique internationale majeure qui a coordonné plusieurs projets dans un domaine qui concerne de plus en plus l'action publique pour ce que je soulignais avant, les inventaires nationaux de gaz à effet de serre et le carbone du sol. Actuellement, dans les inventaires d'émissions de gaz, on utilise une technique qui s'appelle soit le TIR 1, qui est finalement l'utilisation de références internationales pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre en fonction des apports d'azote, en l'occurrence dans les sols agricoles, et qui est basée sur des références internationales qui ne sont pas forcément adaptées aux situations locales, régionales ou nationales. Le GIEC a une autre manière de conduire ses inventaires, qui est ce qu'on appelle le TIR 2, qui s'appuie finalement sur des données régionales acquises par les pays. Et ces données sont difficiles à acquérir parce qu'elles sont très coûteuses et elles supposent un maillage finalement territorial très important. Et donc, CNMIP s'est attaché à une troisième approche qui s'appelle une approche de TIR 3, qui, elle, ne modélise plus des données mesurées, mais des données produites par des modèles numériques, par la modélisation. Dans la littérature, les modèles développés par les scientifiques et qui sont utilisés pour simuler les évolutions des stocks de carbone dans les sols, la production végétale et les rendements, mais aussi les gaz à effet de serre, tels que le CO2 et le N2O, finalement, sont en général développés par des équipes spécifiques et sont ce qu'on appelle calibrés, c'est-à-dire sont renseignés localement avec des conditions locales. Ceci retire finalement leur caractère potentiellement générique et généralisable. CNMIP a participé à une action coordonnée d'une ampleur sans précédent, puisqu'elle a mobilisé 24 modèles, 16 modèles pour les grandes cultures, 12 modèles pour les prairies, 4 modèles faisant grandes cultures et prairies, et en associant 45 équipes de 11 pays. CNMIP a participé à cette action qui a visé à évaluer et comparer ces modèles et proposer des simulations en associant l'ensemble des modèles. C'est ce qu'on appelait une approche ensembliste. C'est très important puisque finalement on recherche au plan mondial des modèles qui seraient susceptibles de fonctionner partout et donner des prévisions d'émissions de gaz à effet de serre indépendamment de calibration locale. Les résultats principaux de cette modélisation ont été d'une part de regarder quelle était ce qu'on a défini comme la médiane, la valeur médiane de prédiction des rendements, des émissions de N2O, de CO2, de stockage de carbone dans les sols. Et finalement, nous avons observé qu'un ensemble de modèles utilisés ensemble était un prédicteur robuste des rendements en grains qui ont porté sur des systèmes de culture avec du blé, du maïs, du riz, des émissions de N2O et de stockage de carbone dans les sols pour les cultures et les prairies temporées. On a vu aussi que cette médiane donnée par la modélisation de l'ensemble de modèles se situait dans la fourchette d'erreurs expérimentales. Et donc, les modèles donnent un estimateur plausible des rendements et des émissions de N2O. Un résultat important a été d'utiliser cet ensemble de modèles pour simuler des options d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et notamment, le projet a regardé, grâce aux modèles, quels étaient les effets dans les différents sites sur le N2O, sur le lessivage du nitrate et sur les rendements, bien sûr, des cultures, en simulant des réductions de fertilisation azotée et des réductions d'irrigation. Donc, un résultat important, c'est de démontrer aux politiques publiques la possibilité d'utiliser ces modèles à terme pour prédire les émissions et la réponse des émissions aux changements, soit d'usage des sols, soit de pratiques culturelles, ce qui est très important pour orienter les politiques publiques.